Il faut répéter la même chose au sujet de la voix et de l'ouïe. C'est en vue du même objet et pour les mêmes raisons que les dieux nous les ont données. En effet, la parole nous a été octroyée pour la même fin, et elle contribue dans la plus large mesure à nous la faire atteindre. Et toute cette partie de la musique consacrée à l'audition de la voix nous a été donnée en vue de l'harmonie. Et l'harmonie, dont les mouvements sont apparentés aux révolutions de l'âme en nous, a été donnée par les muses à l'homme qui entretient avec elle un commerce intelligent. Non point en vue d'un plaisir irraisonné, seule utilité qu'on lui trouve aujourd'hui, mais pour nous aider à régler et à mettre à l'unisson avec elle-même la révolution déréglée de l'âme en nous. Les mêmes déités nous ont donné aussi le rythme pour remédier aux défauts de mesure et de grâce dans le caractère de la plupart des hommes. Dans ce que nous avons dit jusqu'ici, sauf quelques détails, il n'a pas été question que des opérations de l'intelligence. Il faut ajouter à notre exposition ce qui naît par l'action de la nécessité. Car la génération de ce monde est le résultat de l'action combinée de la nécessité et de l'intelligence. Toutefois, l'intelligence a pris le dessus sur la nécessité en lui persuadant de diriger au bien la plupart des choses qui naissent. C'est ainsi, et sur ce principe, que cet univers fut façonné dès le commencement par la nécessité cédant à la persuasion de la sagesse. Si donc, nous voulons réellement dire comment il est né d'après ce principe, il faut faire intervenir l'espèce de la cause errante et sa propriété de produire du mouvement. Il faut donc reprendre le sujet comme je vais dire. Il faut trouver un autre point de départ qui convienne à ce sujet spécial, et, comme nous l'avons fait pour ceux qui précèdent, remonter à l'origine. Il faut examiner quelle était, avant la naissance du ciel, la nature même du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, et quelles étaient leurs propriétés avant ce temps. Car jusqu'ici, personne ne nous a expliqué leur génération. Mais comme si nous savions ce que peuvent être le feu et chacun de ses corps, nous les appelons principes, et nous les considérons comme un alphabet de l'univers, alors qu'ils ne devraient pas même, si l'on veut observer la vraisemblance, être assimilés à la classe des syllabes par un homme tant soit peu intelligent. Pour moi, voici ce que je compte faire aujourd'hui. Le principe ou les principes de toute chose, ou quel que soit le nom qu'on préfère, je n'en parlerai pas à présent, par la simple raison qu'il me serait difficile d'expliquer mon opinion en suivant le plan de cette exposition. Ne croyez donc pas que je doive vous en parler. Moi-même, je ne saurais me persuader que j'aurais raison d'aborder une si grande tâche. Mais je m'en tiendrai à ce que j'ai dit en commençant à la valeur des explications probables, et j'essaierai, comme je l'ai fait dès le début, de donner, sur chaque matière et sur l'ensemble, des explications aussi vraisemblables, plus vraisemblables même que toutes celles qui ont été proposées. Invoquons donc encore une fois, avant de prendre la parole, la divinité, pour qu'elle nous guide dans cette exposition étrange et insolite vers des doctrines vraisemblables et reprenons notre discours.